sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À travers une des plus grandes affaires de l'ancien régime, c'est une plongée dans l'univers interlope des voyous du XVIIIe siècle que nous propose Franck Ferrand cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. L'affaire du collier est une escroquerie hors du commun. Or, c'est une escroquerie historique car elle implique plusieurs grands personnages, dont la reine Marie-Antoinette. Nous allons voir aujourd'hui que cette affaire en a du reste caché une autre que viendra nous raconter Robert Muchemblé.
Alors, vous me disiez avant de prendre l'antenne que nous allons pénétrer aussi dans les coulisses de la police de l'époque.
En effet, en compagnie de René Lévy qui vient de publier une histoire des polices en France, vous allez voir que notre époque n'a pas l'exclusivité des sales petites histoires.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Deux grands personnages au cœur de cette affaire. En rouge et or, dans le rôle du grand seigneur façon cour de Louis XV, c'est-à-dire magnifique et un peu vieux jeu, j'ai nommé le cardinal de Rohan. Il est issu d'une des plus anciennes familles du royaume. Il est cardinal archevêque de Strasbourg, grand aumônier de France, donc un des grands officiers de la cour, un des plus puissants princes de l'Église. Homme de salon et volontiers homme à femme, brillant causeur, vivant sur un très grand pied. Bref, il incarne cette vieille France aristocratique qui veut regagner le terrain cédé à la bourgeoisie. Et en ce qui le concerne, il rêve d'une carrière ministérielle. Il a intrigué pour être nommé par le vieux Louis XV ambassadeur à Vienne, où il s'est fait adorer de la bonne société et haïr de l'impératrice Marie-Thérèse. Il faut vous dire que Marie-Thérèse déteste la morgue et l'ostentation. Or, l'impératrice a tôt prévenu sa fille Marie-Antoinette contre lui. Ce qui fait que lorsque la jeune dauphine voit le cardinal de Rohan arriver à Versailles, elle lui témoigne d'emblée une véritable hostilité. Et voici justement notre deuxième personnage, cette fois tout en blanc dans ce deuxième rôle, celui de la princesse revenue des gloires et des fastes d'antan. Voici Marie-Antoinette qui mène la vie la plus simple possible dans une campagne idyllique et largement factice. La reine incarne à merveille la nouvelle génération de ses altesses inspirées par Jean-Jacques Rousseau et qui prétendent vivre comme de simples particuliers. Ce sont donc bien deux mondes qui s'affrontent ou qui vont s'affronter. Et c'est le second, bien entendu, qui a le vent en poupe, c'est celui de la reine. À Versailles, en tout cas chez Marie-Antoinette, l'époque des grandes fêtes de cour, des rocailles à profusion, des soupers fins au palais, etc., cette époque est révolue. Il faut vous dire que le goût néoclassique est passé par là. On n'aime plus que les lignes droites et sobres, les pastorales à l'antique, les collations, certes très riches et très luxueuses, mais faussement simples et prises à Trianon dans des tenues de linon blanc. Si je vous dis tout ça, c'est parce que dans ce nouveau décor, le fameux collier à la base de toute cette affaire n'a plus sa place. Qu'est-ce que c'est que ce collier? On parle toujours de l'affaire du collier. Eh bien, il s'agit évidemment d'un tour de force de joaillier, doublé en l'occurrence d'un pari commercial. Pendant des années, les deux plus fameux bijoutiers, qui s'appellent Bemer et Bassange, ont réuni une collection de très gros diamants. Leur but, c'était de faire un chef-d'œuvre, quelque chose d'immortel. Au départ, ce collier n'était pas destiné à Marie-Antoinette, plutôt à Madame du Barry, la dernière favorite de Louis XV. Seulement, le vieux roi est mort entre-temps et les deux joailliers ont reporté leurs espoirs sur la jeune reine. Plusieurs fois, ils lui ont présenté leur sautoir et plusieurs fois, elle l'a refusé. Elle le trouve trop gros, cette espèce de harnais, comme elle dit elle-même. 647 diamants énormes, vous vous rendez compte? Tout ça est très lourd, ça pèse plus de 4 livres, plus de 2 kilogrammes, c'est très voyant. honnêtement, aux yeux de Marie-Antoinette, ça paraît carrément démodé. Quitte à jeter l'argent par les fenêtres, la nouvelle reine préfère construire des fermettes dans son petit domaine de Trianon. Elle trouve que cet énorme collier n'a pas vraiment d'allure. Elle fuit Beumer autant qu'elle le peut. « Ah, dit-elle à sa dame de compagnie, cet homme-là a été inventé pour mon supplice. » Évidemment, il faut imaginer que les joailliers, eux, sont bien embêtés avec cette histoire. Ils sont tout dépités. Ils ont essayé de vendre leur grand sautoir à d'autres cours d'Europe. Seulement, le prix vertigineux qu'ils en demandent, 1 600 000 livres, a découragé tous les acheteurs. Pour dire les choses crûment, les malheureux commerçants se retrouvent avec leur chef-d'œuvre sur les bras. Personne ne s'intéresse plus au collier. Quand je dis personne, évidemment, c'est pas tout à fait vrai, parce que les voleurs, les aigrefins, les arnaqueurs, eux, s'y intéressent de très près. Et notamment, parmi eux, une brave inconnue, où elle ne va pas le rester longtemps, une certaine Jeanne de la Motte. Cette arnaqueuse, là, franchement, c'est le seul mot possible, mérite qu'on s'y attarde, car c'est elle par qui le scandale arrive. Jeanne de Saint-Rémy, c'est son nom, descend du côté de son père d'un bâtard du roi Henri II. Pour tout vous dire, c'est sa seule noblesse, car pour le reste, le personnage n'est pas reluisant. Elle a vécu une enfance assez misérable, elle est obligée de mendier jusqu'à ce qu'une dame de qualité, la marquise de Boulainvilliers, se charge de son éducation. Elle a fait toutes sortes de petits métiers, elle a épousé un ancien gendarme, Nicolas de la Motte, qu'elle a affublé du titre de comte. Après tout, ça peut toujours servir. On est à une époque où les titres sont essentiellement de courtoisie. Or, en 1781, à Saverne, il se trouve que sa protectrice l'a présentée à un très haut personnage, évidemment à notre cardinal de Rohan. Et là, tout de suite, avec le flair d'un requin, Jeanne a repéré non seulement le gros poisson, mais le poisson facile à appâter. Elle lui a fait sa cour, elle l'a flatté, elle s'est insinuée dans ses bonnes grâces et finalement, elle va parvenir à se faire apprécier du prélat dont elle a détecté tout de suite le point faible. Cet homme-là serait prêt à tout pour un sourire de Marie-Antoinette. « Ah bon, vraiment ? Ben, s'il n'y a que ça, se dit Madame de la Motte, on doit pouvoir y arriver. » Avec pas mal d'adresse, la comtesse de la Motte va se faire passer pour une intime de la reine. Alors vous allez me dire, c'est un peu gros cette histoire. Mais oui, mais il faut savoir que Marie-Antoinette joue gros jeu à cette époque dans ses appartements. Et elle a pris l'habitude d'admettre à la table de jeu une société pour le moins mélangée. Pourvu que les joueurs soient prêts à jeter des fortunes sur le tapis, ils ont à peu près tous les droits. Alors après tout, on se dit, pourquoi pas une la Motte ? Le cardinal de Rohan a tellement besoin de croire que quelqu'un pourrait défendre ses intérêts auprès de la souveraine que finalement, il va gober, si vous me passez l'expression, tout ce que lui raconte l'arnaqueuse. Parce que c'est un fait, il est entre les mains d'une mauvaise femme. Mais Rohan appartient non seulement à la plus haute noblesse, mais en même temps au plus haut clergé. Alors, dans son esprit, l'idée qu'une femme modeste, presque une bourgeoise, puisse oser se jouer de lui pour venir le gruger, ben c'est tout simplement inconcevable. En outre, la comtesse est habile. Elle demande à son amant, donc Réto de Villette, d'imiter plus ou moins l'écriture de la reine et de signer de faux billets, où Marie-Antoinette se montre aimable, amicale, presque tendre pour ce prélat qui ne demande qu'à y croire. Rohan ne marche pas, il court. Alors les autres en profitent, évidemment. Ils lui soutirent un peu d'argent sous divers prétextes, et puis un peu plus, et davantage encore. Un jour, ils vont jusqu'à contrefaire une supplique de la main de la reine et ils parviennent ainsi à extorquer au cardinal la somme de 50 000 livres. C'est une petite fortune. Et au moment de Noël, il récidive, il lui extorque carrément 100 000 livres. C'est beaucoup d'argent. Là où la comtesse est diabolique, c'est qu'elle a mesuré exactement les concessions nécessaires pour aller plus loin et elle a compris que le prélat se fatiguait des billets écrits. Maintenant, il veut rencontrer la reine en chair et en os. C'est un problème, ça. Est-ce que c'est un problème insoluble ? Oh, pas pour la comtesse de la Motte et pour ses complices. Le cardinal veut voir la reine en privé. Eh bien, on va lui arranger le coup.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Un extrait d'Orphée et Eurydice de Gluck sur Europe 1.
La comtesse de La Motte est une arnaqueuse comme on en fait peu. Et puisque le cardinal de Rohan veut à tout prix rencontrer Marie-Antoinette, eh bien elle se dit qu'elle va la lui présenter. Au palais royal, Nicolas de La Motte, donc son mari, va être chargé de repérer parmi les prostituées une femme qui posséderait à peu près la taille et la corpulence de la reine. On va acheter les services de la dame, on l'habille d'une robe copiée sur un tableau de Madame Vigée-Lebrun, on lui colle sur la tête une aune de mousseline noire et par une nuit sans lune, on va la présenter au cardinal dans un sombre bosquet de Versailles. La souveraine est censée venir en secret pour une entrevue plus ou moins avouable et quand la silhouette approche, le cardinal croit son heure venue. Mais avant que la doublure improvisée n'ait le temps de se trahir, on fait intervenir évidemment Réto, qui pour l'occasion a revêtu la livrée de la reine. « Madame, attention, voici monseigneur le comte d'Artois » dit-il. La silhouette aussitôt disparaît. Rohan ramasse la rose qu'elle a laissée tomber. Il s'enivre de son parfum et voilà, le tour est joué. Prochaine étape pour les trois arnaqueurs, passer aux choses sérieuses. C'est ici que le fameux collier de diamants va entrer en scène. C'est lui qui va servir de support à l'une des plus formidables arnaques qu'on ait jamais vues. Madame de La Motte, vous l'avez compris, a pour elle une audace sans limite. En janvier 1785, elle explique à Rohan que la reine aurait besoin de son aide pour acquérir discrètement le fameux collier de Beaumer. Oh, ça se fait habilement. Naturellement, il y aura un contrat en bonne et due forme. D'ailleurs, ce contrat, pourquoi ne pas l'établir tout de suite ? La reine réglera les joailliers en 4 versements de 400 000 livres chacun, et le premier dès le 1er août. À l'entrevue suivante, Madame de La Motte produit un document apparemment signé de la reine. C'est signé Marie-Antoinette de France. Quand même, le cardinal devrait savoir que la reine, qui n'est pas fille de France, mais qui est née Habsbourg-Lorraine et archiduchesse d'Autriche, signe en vérité Marie-Antoinette tout court. Mais il ne s'arrête pas à cela. En fait, il est ravi. Il tient, en tout cas, il croit tenir le moyen d'aliéner la souveraine. Il se rend lui-même chez le joaillier, chez Beaumer. Il se fait montrer la merveille. Il ne peut s'empêcher de raconter qu'il est missionné par la reine. Évidemment, les bijoutiers le croient. Il est quand même cardinal archevêque de Strasbourg. Ils lui font confiance, naturellement. Et ils lui livrent la marchandise à domicile. Le 1er février, le cardinal se rend à Versailles, pas au château, mais en ville, dans un appartement qu'a loué Madame de La Motte. Et pendant le trajet, on le voit soulever plusieurs fois le couvercle de l'écrin pour apercevoir le fabuleux collier. Il le confie lui-même à la fausse comtesse, qui, sous ses yeux, le remet aussitôt à un faux envoyé de la reine. Alors, le cardinal attend dans les jours qui suivent. Comme tout le monde, il attend que la reine, tout juste relevée de couche, porte en public le fameux joyau. Seulement, évidemment, les jours passent et ça ne vient jamais. C'est alors qu'intervient une coïncidence inouïe. Le roi, pour plaire à sa femme, fait acheter justement chez Bemer un très beau bracelet que le joaillier se doit d'aller livrer lui-même à Versailles. Le commerçant s'est resté discret en face de la reine, mais il trouve quand même le moyen de lui glisser un petit billet sur lequel est écrit « Madame, nous avons une vraie satisfaction de penser que la plus belle parure de diamant qui existe servira bientôt à la plus grande et à la meilleure des reines. » Et là, Marie-Antoinette tombe des nues. Non mais décidément, ce Bemer est tombé complètement fou, pense-t-elle. Très imprudemment, mais à son habitude, elle brûle le billet à la flamme d'une bougie et se contente de demander à Madame Campan, c'est Madame Campan, c'est cette femme qui a toute sa confiance, qui s'occupe notamment de sa bibliothèque, elle demande à Campan de tirer cette affaire au clair. Alors la brave femme se rend chez Bemer dès le 9 juillet et il lui faut pas longtemps, en quelques phrases, elle comprend que les joailliers ont été la dupe d'une arnaque montée de toutes pièces sous couvert du nom de la reine. La présence du prince de Rohan dans l'affaire est un facteur aggravant car même s'il est loin de s'en douter, le cardinal continue de susciter une haine farouche dans l'entourage de la reine. Madame Campan, qui est soucieuse de ménager la reine, fait d'abord part de ses soupçons à deux personnages haut placés de l'entourage de Marie-Antoinette, son confesseur et surtout le marquis de Breteuil, qui est l'équivalent de notre ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui. Or, ce marquis de Breteuil est l'homme qui convoitait le poste de Rohan lors de sa nomination à Vienne comme ambassadeur. Autant dire que l'idée d'une revanche sur le prélat ne lui déplairait pas du tout. Entre-temps, la fausse comtesse a continué ses manœuvres. D'abord, elle a chargé Rohan d'informer Bemer que la reine pouvait honorer la première échéance aussi vite que prévu, qu'il fallait lui faire un crédit supplémentaire jusqu'en octobre. Et en même temps, ça c'est très malin, elle a mis les joailliers au courant. Elle leur a fait savoir que la prétendue signature de la reine était un faux. L'idée, c'est de faire peur au cardinal et de l'obliger à régler lui-même la facture par crainte du scandale. Chez la reine et bientôt chez le roi, tout le monde se laisse aveugler par les préjugés contre Rohan et pense que cette affaire du collier est en fait un coup monté par le cardinal lui-même afin d'obtenir des liquidités pour payer je ne sais quelle dette. Personne au sommet de l'État ne va songer un instant que Rohan puisse être lui-même la victime d'un petit groupe d'aigres fins. On le prend pour l'escroc en personne. Le 15 août 1787, le grand aumônier de France arrive à Versailles. Il est en brillant équipage. Il arrive pour célébrer la messe solennelle de l'Assomption. On est le 15 août. Auparavant, il a été convoqué. Le roi l'attend dans son cabinet. Le cardinal s'y retrouve face au couple des souverains, au marquis de Breteuil et au garde des Sceaux, Miroménil. C'est Louis XVI qui attaque. « Vous avez acheté des diamants à Bemer ?» demande-t-il. « Oui, sire. Qu'en avez-vous fait ?» « Je croyais qu'ils avaient été remis à la reine. »« Et qui vous a chargé de cette commission ?»« Une dame, nommée la comtesse de la Motte Valois, qui m'a présenté une lettre de la reine. » Et là, Marie-Antoinette intervient. « Comment, monsieur, avez-vous pu croire, vous à qui je n'ai pas adressé la parole depuis 8 ans, que je vous choisissais pour conduire cette négociation et par l'entremise d'une pareille femme ?» « Oh, je vois bien que j'ai été cruellement trompé, » dit le prélat. « Je paierai le collier. L'envie que j'avais de plaire à votre majesté m'aura fasciné les yeux. Je n'ai vu nulle supercherie et j'en suis fâché. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cabinet du roi, personne ne croit à cette version qui est pourtant véritable et sincère. Et quand le cardinal sort de la pièce, le marquis de Breteuil transmet l'ordre au capitaine des gardes de l'arrêter. De l'arrêter devant toute la cour assemblée, en ce jour de fête, on peut dire que c'est le début des gros ennuis pour tout le monde. Alors, le cardinal est conduit à la Bastille et aussitôt l'enquête est ouverte. Elle progresse d'ailleurs vite et bien. On ne tarde pas à arrêter l'amant de la fausse comtesse, Réto. On l'arrête à Genève. On arrête également la complice, Mademoiselle d'Oliva, à Bruxelles. Seul le mari de Madame de la Motte, qui se trouve en Angleterre, bénéficie du droit d'asile. Quant à la dame elle-même, eh bien, on la retrouve chez elle, à Bar-sur-Aube, et elle se laisse d'autant mieux arrêter que son rôle dans l'histoire n'est pas achevé. Sitôt interrogée, elle se met à nier tout en bloc et reconnaît seulement avoir été la maîtresse du cardinal de Rohan.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et voici maintenant l'extrait du ballet d'Orphée et d'Eurydice de Gluck sur Europe 1.
À Versailles, on continue de s'aveugler sur cette affaire qui va devenir l'affaire du collier. Au lieu de chercher à comprendre ce qui s'est passé, au lieu d'admettre que tout le monde dans cette histoire est la victime d'une arnaqueuse et de ses complices, eh bien, on préfère prêter foi aux dénégations de Lamothe et continuer, vraiment par préjugé, je vois pas d'autre explication, continuer de croire que le cardinal est la cheville ouvrière de toute l'histoire. Pour Louis XVI, la question c'est surtout de savoir comment on va pouvoir juger ce prince de l'Église, un très très haut personnage. Est-ce que le roi doit user de la justice retenue? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit se prononcer lui-même, rendre lui-même une sentence à l'issue d'une procédure qui aurait lieu à huis clos? Ou bien est-ce qu'il doit laisser aller le cours de la justice ordinaire et faire juger le prince de Rohan par la juridiction suprême du Parlement de Paris? La question évidemment se pose. Et c'est ici qu'intervient la reine, qui, bien qu'elle soit étrangère à toute cette affaire, vous l'avez compris, se trouve néanmoins mêlée à l'histoire, puisque tout s'est fait sur son nom dans cette histoire. C'est pour la reine, c'est par la reine que le collier a été acheté, qu'il a été financé, etc. Depuis les révélations du cardinal, Marie-Antoinette, on peut le dire, est au supplice. Il lui est insupportable d'imaginer que ce haut dignitaire de l'Église ait pu croire qu'elle lui faisait passer des billets plus ou moins intimes par le biais d'une aventurière. Surtout, Marie-Antoinette, dans cette histoire, réalise soudain à quel point l'opinion, et quand on dit l'opinion, notamment la plus haute noblesse, peut être convaincue de la vilenie de son caractère. Ainsi donc, un cardinal, des joailliers, plusieurs financiers au passage ont trouvé parfaitement plausible qu'elle puisse entretenir des liens douteux avec un grand personnage en vue d'acheter un bijou hors de prix, en cachette et surtout sans le dire à son mari. Là, Marie-Antoinette réalise, après quand même 11 ans de règne et déjà beaucoup d'épreuves surmontées, elle réalise que ses légèretés de jeune princesse, que ses inconséquences de souveraine ont laissé des traces, et des traces terribles. Elle réalise que l'opinion qu'on a d'elle dans le public est une opinion extrêmement dégradée. C'est dur pour elle à admettre et c'est ce qui explique qu'elle veuille s'acharner contre celui qu'elle considère finalement comme le principal responsable de tous ces maux, c'est-à-dire contre le cardinal de Rohan. Et dès lors, elle estime qu'il va falloir laver en quelque sorte son honneur, que cet honneur doit être lavé au grand jour et que pour être disculpé en public, il faut qu'il y ait un grand procès public. Et voilà pourquoi le procès du cardinal va avoir lieu devant le Parlement de Paris. C'est un véritable déchaînement de passion dans la presse, une presse qui n'a jamais connu jusqu'alors d'aussi gros tirage. On peut dire que l'affaire du collier aura été à l'origine de l'expansion de la presse française. Dans l'esprit du public, les turpitudes supposées de la reine et de Rohan sont confondues dans une même réprobation vague. La noblesse et toute une partie du clergé ont de leur côté pris fait et cause pour le cardinal. Alors, il y a deux chefs d'inculpation qui portent sur Rohan. D'une part, inculpation d'escroquerie, ça évidemment, mais d'autre part, le crime de lèse-majesté envers la reine. Le cardinal accepte de s'expliquer sur l'injure involontaire à la reine, mais il réfute absolument l'escroquerie. D'ailleurs, en condamnant les vrais escrocs, le Parlement va lui donner raison. Reste la question du lèse-majesté. La reine tient énormément à ce que Rohan soit condamné, vous l'avez compris, il y va de son honneur de femme, d'épouse, de reine. Seulement, à 26 voix contre 23, la Cour de justice décide de relaxer le cardinal. Alors, pour Rohan, pour sa famille, pour la noblesse, pour l'opinion elle-même, c'est un triomphe. Mais pour la reine, c'est un camouflet sans précédent et qui donne déjà la mesure de l'estime qu'on lui porte. Eh bien, par dépit, sans doute, et puis aussi sûrement par amour pour sa femme, Louis XVI n'en va pas moins démettre le cardinal de sa haute charge et l'exiler dans son abbaye de la Chaise-Dieu en Auvergne. Ça, c'est une sanction terrible et d'autant plus dérisoire qu'elle est vécue par le peuple comme un acte d'injustice. C'est donc une maladresse terrible de la part de Louis XVI. Voilà donc un Parlement renforcé. Une couronne bafouée et, au passage, la reine complètement ridiculisée. Une noblesse et une église qui rejoignent le tiers-état dans ses récriminations. On peut dire que le premier acte de la Révolution française vient de se jouer. Et ça, bien sûr, à l'époque, personne ne le sait encore. Alors, la morale sera sauve quand je vous aurai dit que tout de même, la comtesse de La Motte, à l'instigation de toute l'affaire, sera bel et bien condamnée, elle, finalement. Elle sera flagellée en public, marquée au fer rouge du V de voleuse. Elle est même enfermée à la Salpêtrière. Normalement, il est prévu qu'elle y passe le restant de ses jours. En vérité, elle sera libérée par des complices en juin 1787 et se réfugiera à Londres, Londres où elle meurt, en août 1791, d'une façon d'ailleurs qui lui ressemble bien, elle s'est tout simplement jetée par la fenêtre pour échapper à la police envoyée par ses créanciers. Alors voilà pour l'affaire du collier telle qu'on la connaît, telle qu'on la raconte depuis plus de deux siècles. Mais ce que nous rappelle opportunément un récent ouvrage de Robert Muchimblet, c'est que cette première affaire du collier en cache en vérité une seconde. Alors bien, c'est précisément cette seconde affaire que nous allons revoir en compagnie de l'auteur et en compagnie d'un spécialiste de l'histoire des polices, juste après le flash de 14h.
Exactement. Un petit peu de suspense, à tout de suite Franck, précisément 14h sur Europe 1.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
C'est la deuxième affaire du collier qui va nous occuper dans cette nouvelle partie de l'émission. Quand je dis la deuxième affaire, vous nous expliquez, Robert Muchimblet, dans votre ouvrage qui s'appelle « Les ripoux des Lumières, corruption policière et révolution », c'est édité au Seuil, vous nous expliquez dans cet ouvrage qu'en fait, il y a eu une affaire alors qui est d'ailleurs extrêmement complexe. Je dois avouer que je m'y suis un peu perdu, c'est très passionnant, mais il faut suivre, hein. C'est extrêmement... Oui. C'est une affaire très alambiquée, mais qui vient se greffer en quelque sorte sur la première ou qui plus exactement se cache derrière.
Qui se greffe. Certains des protagonistes sont les mêmes, comme un certain Bette d'Étienville, qui est un des protagonistes de la première affaire. Oh, elle est très simple en réalité, même si elle est complexe. Il s'agit de profiter de la circonstance, parce que l'affaire du collier a duré pendant des mois, étant donné que l'achat a été fait en février et le cardinal n'a été pris qu'en août. Entre deux, les aigrefins, parce que je pense que ce sont les mêmes, en ont profité pour essayer de soutirer 60 000 autres livres à d'autres bijoutiers.
Alors notamment deux bijoutiers qui vont prêter chacun environ 10 000 livres.
C'est ça. Il y a une affaire un marchand de vêtements.
Un marchand de montres aussi.
Un bijoutier marchand de montres. C'était conduit par un personnage... dont j'ai découvert les faces.
Alors, c'est ça qui est fascinant. Vous nous apportez, sur un plateau de vermeil, vous nous apportez un nouveau personnage, bien plus étonnant que Vidocq, si j'ose dire.
C'est l'ancêtre de Vidocq. Certains historiens, comme d'ailleurs un de ceux qui sont sur la couverture du livre dont on parlera tout à l'heure, n'ont pas cette impression, mais les documents existent. Les sources existent.
En l'occurrence, c'est l'inspecteur Meunier.
C'est l'inspecteur Meunier.
Qui d'ailleurs a toutes sortes d'identités.
C'est ça. Là, dans l'affaire du collier, il s'appelle désormais Duhamel de Précourt.
C'est ça.
Il est comte.
C'est le même.
Il est comte. Et il joue avec les, les bijoutiers en question à propos d'une prétendue histoire de mariage. Il leur, non seulement on les a volés, mais il leur revend les produits du vol. Et il les traîne complètement dans la boue parce qu'ils n'arrivent pas, les pauvres individus, à faire autrement qu'à payer. Il réussit à les obliger à venir racheter les bijoux qu'on leur a volés.
C'est assez inouï comme histoire.
Absolument. Il y a un procès, mais il le gagne. Il y a un procès contre lui disant que c'est pas possible, c'est du stellionat, mais il le gagne en réalité.
On l'appelle l'inspecteur Meunier parce qu'il a été inspecteur, il s'occupait des mœurs.
Il a été inspecteur des mœurs au milieu du siècle et il a laissé une profusion de documents assez extraordinaires qui est sans doute les origines des renseignements généraux.
Et ce qui, voilà, c'est ça. Et qui d'ailleurs, ça je me rappelle moi, certains séminaires avec Jacques Revel à l'EHSS, ce sont de vieux souvenirs, mais ce sont des rapports qui servent beaucoup, hein, qui sont très utilisés.
On les croit énormément parce que toute la haute société parisienne est à l'intérieur.
Exactement. Oui.
Y compris, d'ailleurs, le cardinal de Rohan, qui est un homme à femme, qui, on sait que ça arrive aussi à toutes les époques, s'est fait piéger par les femmes, sans arrêt. En particulier, la reine le hait, parce qu'il y a eu les 8 ans dont vous parliez auparavant. C'est une affaire très particulière qui a touché la reine. C'est un libelle extrêmement insultant contre elle qui a été lancé par des individus de mauvaise compagnie, peut-on dire, qui disaient la greluchon femelle, c'est-à-dire qui mettait en cause les relations homosexuelles de la reine avec la princesse de Lamballe.
Oui.
Or, on a découvert qui était l'auteur. C'était un héritier digne de Meunier, l'inspecteur du livre Goupil, qui portait un très beau nom, lequel avait réussi...
L'inspecteur du livre, c'est-à-dire la personne chargée théoriquement de
chargée
tout ce qui
de la surveillance du livre à Paris.
L'impression, quoi, l'imprimerie.
Oui, c'est ça. Il faisait imprimer des libelles infamants contre la reine. Il ne les vendait pas. Il obtenait de la reine, qui avait très peur, il a obtenu 100 000 livres pour ne pas diffuser ceci. Mais, alors, le cardinal de Rohan était l'amant de sa femme à Goupil. Et il soutenait Goupil et il avait promis à la femme de Goupil, grâce à tous ses services rendus à Lamballe, à la princesse de Lamballe et à la reine, il lui avait promis une place éminente de lectrice de la reine. Goupil a été pris, mis en prison, il serait mort. Mais le cardinal de Rohan a été éclaboussé par cette affaire et la reine, qui le détestait depuis Vienne...
Avait maintenant une bonne raison.
Elle avait une raison de plus. Mmh. Parce qu'à Vienne, il s'était comporté en prélat extrêmement amateur de femmes.
Il faut toujours souligner, j'ai déjà eu l'occasion de le faire plusieurs fois ici, mais il faut toujours souligner que dans cette affaire, la reine est absolument victime d'une escroquerie, mais que la maison royale, en l'occurrence le roi, le marquis de Breteuil et la reine elle-même évidemment, ont fait preuve d'un aveuglement assez coupable.
Absolument.
C'est-à-dire qu'ils se sont trompés sur le cas du cardinal de
Rohan,
il faut le dire.
Je pense qu'il était un peu imbécile, le cardinal, malheureusement. Mmh. Enfin, le lieutenant général de police Lenoir disait il sera perdu par les femmes, ce que l'on peut comprendre. Il l'a été d'ailleurs. Mais que faisait la police ? Lenoir était le lieutenant général de police au moment du début de l'affaire en question. Il ne s'est rien passé. Et Lenoir, après, raconte très longtemps après, dans des mémoires, après 1789, sa version des choses. La police n'a pas vraiment, vraiment suivi l'affaire. Car ce n'est pas une petite organisation. Le cardinal a été roulé par une série de gens. La comtesse de la Motte était l'apparence visible. Son mari...
Elle a d'ailleurs servi un peu de... Pas de bouc émissaire, parce qu'elle était tout à fait coupable. Mais
absolument.
En tout cas, c'est elle qu'on a vue dans l'affaire.
Mais apparemment, elle a réussi à s'évader après. Ouais. Et en plus, certains historiens disent qu'elle n'est pas morte en 1791.
Mais enfin, elle a survécu jusqu'en 1844.
Mais son mari n'était pas n'importe qui. C'était une mouche de la police qui a fait une grande carrière dans la police à partir de 1814. Et en 1816, à nouveau, il est devenu inspecteur de police. Et ce personnage-là n'a jamais été inquiété. Il avait vendu une partie du collier de diamants à Londres. Et il est rentré en France le 18 août 1789, sans être inquiété par qui que ce soit. Il y avait une énorme organisation qui incluait, à mon avis, mais on n'a pas de preuves là, le lieutenant général de police Lenoir, qui a démissionné juste avant l'arrestation du cardinal sur l'ordre de Breteuil. Et il y avait des vengeances également qui étaient en cours. Car non seulement Breteuil détestait le cardinal de Rohan, à cause du fait qu'ils avaient été tous les deux successeurs à l'ambassade de Vienne.
C'est ça, oui.
Et Breteuil était un espion de Louis XV.
Il faisait partie du secret du roi.
Un grand espion secret de Louis XV.
Ce qu'on découvre, c'est bien plus étonnant encore que dans les romans de Jean-François Parot, ce qu'on découvre, c'est que dans toutes ces affaires, les services privés du roi, les services secrets, la police, ou ce qui peut en tenir lieu, les services de la maison du roi, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur d'aujourd'hui, et une grande partie de ce qu'on pourrait appeler la pègre, tout ça s'entend, se connaît, est interchangeable, c'est un sac de nœuds assez stupéfiant, c'est lui qu'on va essayer modestement de démêler, en tout cas de montrer dans les minutes qui viennent.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand sur Europe 1.
Il pleut, bergère, presse tes blancs moutons, allons à la chaumière, bergère, vite allons. J'entends sous le feuillage l'eau qui tombe à grand bruit. Voici venir l'orage, voici l'éclair qui luit.
La voix inoubliable de Bourvil qui chante cette chanson tout à fait de saison, hein, puisque cette « il pleut bergère », ça sort précisément dans ces années 85-86. Et évidemment, la bergère visée, c'est la reine Marie-Antoinette. Alors, nous a rejoint René Lévy, qui est sociologue et directeur de recherche au CNRS et co-auteur d'une histoire des polices en France de l'Ancien Régime à nos jours. C'est publié aux éditions Nouveau Monde. Je vous ai demandé, René Lévy, de nous rejoindre parce que nous abordons bien dans cette affaire la question de la police. Mais, et c'est ce que nous étions en train de dire pendant la page de publicité, la police dont il est question, Robert Muchin-Blé, n'est pas la police moderne, évidemment. C'est une sorte de pré-police, c'est l'ancêtre.
Et surtout, c'est une police qui est beaucoup plus comparable à celle de pays qui ont des crises actuellement. C'est une police de régime autoritaire. Et dans une police de régime autoritaire, ce n'est pas le système de la démocratie. Il est beaucoup plus difficile d'être policier aujourd'hui, en démocratie, qu'à l'époque. Parce que le lieutenant général Berryer,
On va peut-être commencer par lui, vous avez raison.
Oui, Berryer qui a été nommé en 1747, qui est un grand ami de la marquise de Pompadour, qui est un homme de Pompadour.
Oui, c'est un homme du clan Pompadour, Paris et compagnie.
Il a recruté des nervis. Comme inspecteur de police. Sur les 20 inspecteurs de police, un jour on les a dénoncés à son successeur, une dizaine d'années plus tard, tous étaient décrits comme des truands, des vidocs, qui avaient au moins commencé leur vie dans le crime, et longtemps on a pensé que pour être un bon policier, il fallait connaître le milieu. Jusque 1870...
On a même l'impression que ces gens ont comme des missions par intermittence. Ils sont tantôt policiers, tantôt plutôt...
Malfrats. Oui. Alors Meunier en est un d'entre eux.
L'inspecteur Meunier dont on parlait tout à l'heure.
C'est très difficile de savoir qui il est exactement, mais c'est un bâtard, c'est sûr. Et un bâtard n'a pas le droit d'être policier à l'époque. On achète sa charge, on n'a pas le droit quand on est bâtard. Mais il a réussi à l'être et il a recruté autour de lui une série de sbires.
Donc en fait, une sorte de marais, hein, de milieu nébuleux.
C'est ça. Une police qui, ce n'est pas une légende, était composée aussi de beaucoup d'observateurs, qu'on appelait les mouches. Souvent, ils étaient recrutés d'une manière très simple. Tout individu qui tombait entre les mains de la police et qui avait quelque chose à se reprocher, comme Damien, le futur assassin, entre guillemets, de Louis XV, fut une mouche de la police. Il a travaillé pour la police peu auparavant. Alors ces gens-là donnaient des informations et on a...
Ce qui ne veut pas dire que du jour au lendemain, ils changeaient de tempérament ni de relation, évidemment.
Évidemment. Mais on a, grâce à eux, une information faramineuse qui a été notée dans des centaines de dossiers conservés.
Et ça, c'est un peu le travers de cette monarchie finissante. C'est une bureaucratie envahissante et surtout une bureaucratie parallèle. Et c'est là qu'intervient la responsabilité personnelle du roi Louis XV dans la création, on le disait aussi, de ce secret du roi, qui sont un peu l'ancêtre de nos services service secret.
Exactement.
Et qui lui permet au départ de mener une diplomatie parallèle.
Oui, mais ça se retourne contre lui. Par exemple, il avait parmi ses grands hommes du secret le chevalier Déon,
voilà,
qui lui a fait du chantage.
Et comment, oui.
Et un énorme chantage. Beaumarchais a dû être envoyé pour récupérer les lettres de Déon après la mort de Louis XV. Et il y avait Meunier. Meunier était probablement à un moment donné un espion également en Russie, du côté de l'Est, parce que c'était la grande hantise de Louis XV. L'Est, la Pologne, la Russie. Grande puissance dominante, la Russie qui montait, qui prenait, qui volait les secrets.
Et puis l'affaire de Pologne qui est au cœur.
L'affaire
de la création
de Pologne, le partage de la Pologne. Alors les Français allaient dans cette zone-là et Meunier a certainement vendu des colons français à la Russie, sous un autre nom.
Alors on trouve dans toutes les affaires de Meunier et de tous les noms qu'il peut emprunter, parce que c'est une sorte d'Arsène Lupin aussi. Hein,
c'est ça. On peut suivre sa trace grâce à son écriture. Si ce n'est pas le même homme, c'est une école d'écriture extrêmement précise, c'est une écriture très reconnaissable.
Heureusement que vous avez cet élément graphologique.
Absolument. Et puis, toutes les traces qu'il a laissées, je n'ai pas été les consulter, mais il semble qu'il ait laissé des kilos de documents en Pologne.
Ah tiens, oui aussi.
Et en Russie.
Je vous dis que ce personnage va devenir un jour très célèbre et qu'il il mérite un grand roman. Je me disais aussi, en vous écoutant à l'instant, que les doutes qui subsistent sur cette affaire phénoménale du cambriolage du millénaire, hein, du vol des joyaux de la couronne de France en septembre 1792, gagneraient beaucoup à être réétudiés sous cet angle-là. Parce qu'en fait, on se rend compte, on n'arrive pas, quand on suit cette histoire, cette affaire, on est constamment perdu. On ne comprend pas qui est policier, qui est malfrat, et pour cause. Absolument. Lorsqu'on vous a lu, on commence à se dire qu'en fait, c'était un peu les deux. C'est quand même, c'est un peu une révision des choses, ça, René Lévy.
En fait, non, pas vraiment, parce que on sait bien qu'il y a cette zone intermédiaire pendant très longtemps où, comme l'a dit Robert Muchamblay, on pense que la police doit être faite par des gens qui ont l'habitude des milieux qui sont chargés de contrôler et qui en a davantage l'habitude.
Et sur lesquels ils doivent informer.
Ils doivent informer, naturellement.
Alors, nous revenons sur les origines de cette police ou de ces polices dans un instant.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous sommes en compagnie de Robert Muchamblay, professeur à l'Université de Paris-Nord et auteur de ce livre assez extraordinaire où apparaît un nouveau personnage, notamment cet inspecteur Meunier. Ça s'appelle « Les ripoux des Lumières, corruption policière et révolution ». C'est édité au Seuil et nous a rejoint René Lévy, qui est sociologue et directeur de recherche au CNRS et co-auteur avec Jean-Marc Berlière de « L'histoire des polices en France, de l'Ancien Régime à nos jours ». C'est aux éditions Nouveau Monde. Je constate, René Lévy, que vous parlez bien de l'histoire des polices, du reste. Hein, parce que vous établissez des différences très intéressantes. C'est même la base de l'étude de la police. C'est-à-dire que ce n'est pas la police. Précisément.
Non, ce sont les polices, parce que pendant très longtemps, au moment où se structurent les institutions policières, où elles se professionnalisent, si vous voulez, on a d'abord la gendarmerie, hein, qui est la seule, pendant très longtemps, la seule institution nationale de police et qui est une institution à caractère militaire, mais avec des fonctions essentiellement policières. Et puis nous avons aussi, avant l'étatisation des polices de 1941, qui donne naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui comme la police nationale, on a en réalité des polices urbaines, qui sont des polices municipales. Nous, on a la police parisienne, qui est la plus grosse institution urbaine de police pendant très longtemps, la préfecture de police. Et puis, on a un embryon de police civile d'État, qui est la Sûreté nationale, mais qui se ramène pendant longtemps à une police politique. Ce sont les renseignements généraux qui, à l'époque, au début, ne s'appellent pas comme ça.
Les besoins de la société sont toujours les mêmes, mais les missions confiées aux différents services de police évoluent beaucoup, en fait. C'est ce qu'on...
Pas tant que ça,
non,
finalement.
Non, pas tant que ça, parce que vous savez, il y a quand même quelques grandes fonctions policières. La police criminelle, on va dire, police judiciaire, comme on l'appelle en France, le maintien de l'ordre, la sécurité publique. Alors, on n'a pas toujours des institutions ad hoc en matière de maintien de l'ordre.
Quoique, parce que, par exemple, la gendarmerie, son ancêtre, et qui avait ces missions-là, c'est la maréchaussée, qui est créée par François Ier. Mm-hmm. Et que c'est, comme on dit, au pays de maréchaux, on pend d'abord, on juge ensuite. C'est mm-hmm. une force sur les chemins. C'est la maréchaussée. La police, proprement dite, est créée au XVIIIe siècle. Le lieutenant général est créé avant, mais les inspecteurs de police, les 20 inspecteurs de police de Paris, sont créés au XVIIIe siècle.
Sont ceux de Berger dont vous parliez.
Un peu avant, il y a eu beaucoup de scandales. Ils étaient 40 au début, il y a eu plein de scandales. On les a fait passer à 20 de façon à changer les hommes. On n'a pas réussi, en fait, à beaucoup changer les hommes. Il est probable que Meunier avait déjà acheté une charge de police auparavant, avant de revenir sur place. Et ces policiers ont des tâches extrêmement diverses. Par exemple, il existe une patrouille de sûreté qui s'occupe de la sûreté des vols, des bagarres dans les rues de Paris. 3 ou 4 hommes avec une escouade, plus d'autres systèmes de police qui s'y ajoutent. Ou bien il y a l'inspecteur des mœurs, Meunier, qui surveille les prostituées, les filles de l'opéra, les diplomates, tous les hommes d'importance qui fréquentent des prostituées, les prêtres qui vont chez des prostituées, etc. Il y a une spécialisation. Il y a un inspecteur des jeux qui s'enrichit énormément et généralement se retrouve en tôle assez facilement. Il y a un inspecteur du livre. En fait, la police a toujours eu sous d'autres noms les missions que l'on voit apparaître maintenant dans notre monde démocratique sous d'autres formes.
Parce qu'en réalité, c'est-à-dire, il faut les citer quand même, les missions de la police, les grandes missions fondamentales.
Le renseignement,
le maintien de l'ordre.
Le maintien de l'ordre.
La sécurité publique.
La sécurité publique.
Au jour le jour. Et la police criminelle. L'enquête judiciaire.
Au XVIIIe, elle était beaucoup plus large. Le lieutenant général était en charge des portes, de la fermeture des portes de Paris, de l'allumage des réverbères, des boues et immondices, du prix du pain, c'est-à-dire mission de surveillance pour éviter les émeutes. Et je crois que le vrai changement de la police, il n'est pas si ancien que ça. Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, mettait encore en garde
en
1981, c'est cité dans le livre, dans votre livre, mettait en garde encore la police contre le fait qu'elle était perçue par les ouvriers et l'opinion de base ouvrière comme répressive, briseuse de grève. Ce qui était extraordinaire chez un ministre de l'Intérieur il y a 30 ans.
Le livre dont vous parliez, c'est « L'histoire des polices en France, de l'Ancien Régime à nos jours » de Jean-Marc Berlière et René Lévy, édité chez Nouveau Monde. Et puis de Robert Muchin-Blé, « Les ripoux des Lumières », c'est au Seuil. Merci beaucoup messieurs d'avoir essayé de nous éclairer un peu sur des affaires infiniment ténébreuses.
Merci à vous.